Et bonsoir à tous, bienvenue dans le Paris Central Show. On se retrouve ce soir avec Basto, l'habituel aigri de Paris Central. Et bien entendu, on accueille comme il se doit Julien Froment, journaliste chez Le Parisien, pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait régulièrement des billets sur le Paris Saint-Germain.
Radio France.
Oula, énorme, énorme bourde, je suis vraiment désolé, mon Jules.
Mais après, je les aime beaucoup, mes copains du Parisien.
C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais j'ai fait, excuse-moi, j'ai fait le parallèle parce qu'on a eu Alexandra Plalo la semaine dernière qui, lui, était au Parisien.
Voilà.
Tac, voilà. Donc, excuse-moi,
Il n'y a pas de
Julien.
souci. Non, non, il n'y a aucun problème.
Donc, déjà, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Oh là là, oh lélé, qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. J'ai bien retenu le match aller Francaise et je te fais une petite dédicace pour ce match retour. Blague à part, pour commencer, un match assez étrange dans le sens où le Paris Saint-Germain a d'abord joué à 11 contre 11 et à 11 contre 11, on a quand même eu beaucoup de difficultés. J'ai eu l'impression de voir l'Atlético Madrid entraîné par Simeone quand on a joué à 11 contre 11. Et suite au carton rouge, on peut dire ce qu'on veut, on peut râler, on peut dire qu'il est sévère, c'est la première faute du match. La faute est là, le rouge est mérité. Et il se trouve que c'est Si Ahmed, le numéro 6 de Lens, celui qui apporte l'équilibre dans ce milieu et qui peut permettre à Fofana d'être un milieu totalement libre qui sort côté lensois. Ce qui va entraîner une réorientation tactique aussi bien côté parisien que lensois, ce qui va complètement changer l'issue de ce match. Déjà pour commencer, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Basto?
Oui, il y a clairement un match avant le rouge et un match après le rouge. Et comme tu dis, c'est pas n'importe qui prend le rouge. En plus, c'est Samed qui est vraiment l'équilibre cette saison de Lens. On dit souvent que c'est Fofana le milieu clé, mais pour moi, c'est Samed. L'année dernière, on voyait avec Fofana Doucouré, Lens qui prenait beaucoup de buts. Cette année, avec Samed, Lens est la meilleure défense de Ligue 1, tout simplement. Maintenant, le pauvre Samed, il prend rouge ce soir, mais on va dire qu'il est un peu rattrapé par la patrouille. C'est un des milieux qui fait le plus de fautes en Ligue 1. Et qui, à contrario, prend peu de cartons. Bon, ce soir, c'est tombé sur lui, elle est nette. C'est une faute maladroite, hein. D'habitude, il fait des fautes un peu plus intelligentes. Ça lui tombe dessus. Avance rouge, Paris est ballotté. On va dire que c'est Lens qui donne le rythme du match, qui donne le tempo, avec 5 premières minutes où ils font une grosse pression. Il y a cet arrêt de Donnarumma décisif. Après, Lens arrête de presser, recule un peu plus, mais c'est en mode laisser le ballon à Paris, mais toujours en étant en mode je donne le tempo. Donc c'était vraiment Paris qui était en mode outsider et Lens qui menait à même le match. Puis As Rouge, on parlera des changements de système tout à l'heure, notamment du passage à 4 de Paris, même si c'est pas sur ce match seulement que moi je dis l'avis, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, ça, de ce changement de système de Paris. Donc voilà, oui, clairement un match avant le rouge et un match après le rouge, c'est évident.
Julien.
C'est un peu, ouais, le match est un peu bizarre. Certes, il y a 3-0 pour pas, enfin, il y a 3-1, et les 3 buts sont quand même assez jolis, hein, on va pas se mentir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un PSG marquer des buts aussi intéressants dans la construction, et même la frappe de loin de Vitinha. On reproche souvent au Paris Saint-Germain de pas tenter sa chance en dehors de la surface de réparation. Là, ça a été fait et bien fait. Mais après, que ça soit à 11 contre 11 ou à 11 contre 10, pareil, c'est quand même fait manger globalement. Enfin, je veux dire, on avait l'impression que c'était le PSG qui était le petit club qui devait jouer l'exploit pour gagner le titre face à l'ogre lensois. Franchement, Lens a imposé son jeu, son identité. Lens savait ce qu'il devait faire, comment il devait le faire. Après, forcément, quand tu prends un rouge aussi vite dans la partie rouge qui est méritée, parce que la semaine est quand même un peu hardcore, ça te change totalement après ta façon d'aborder la rencontre. Mais j'ai trouvé que même à 10, tu vois, Lens a gardé sa façon de jouer avec un pressing très très haut, très impactant. Un mec devant, franchement, Openda, qui a quand même donné pas mal de tourments que ce soit à Marquinhos ou à la défense globalement du Paris Saint-Germain. Et un PSG, ouais, qui a pas été en gros, qui a fait le boulot en marquant ses 3 buts en étant très efficace, mais après ils n'ont rien montré. La seconde période, franchement, elle est scandaleuse. Quand tu as une supériorité numérique et que tu veux envoyer un message, parce qu'en plus tu sais que ta saison, elle est pas dingue, t'as l'occasion d'enfoncer le clou et de devoir vraiment mettre un gros score à Lens, tu le fais pas. Et au final, c'est Lens qui a, je crois, 6 ou 8 frappes en seconde période, et Paris qui n'existe pas vraiment. Donc en fait, c'est quand même très compliqué quand même pour le Paris Saint-Germain de faire une telle prestation en étant en supériorité numérique, quoi. Mais c'est à l'image de la saison du PSG, quoi. Enfin, c'est au final, t'as eu des moments de grâce sur les 3 buts, et puis après, t'es face en fait à la vérité de ce qu'est le PSG en ce moment, quoi.
Alors justement, Z nous a rejoint en cours de route. Salut à
Il a
toi.
changé, Hitch.
Salut Z. Exactement. Hitch a dû avoir quelques petits soucis de connexion. Il nous rejoindra peut-être en cours de route. Z, je te pose la même question que j'ai posée aux autres. Est-ce que pour toi, le carton rouge a changé l'issue de ce match? Est-ce que pour toi, il y a eu un match avant et après ce carton rouge contre Lens?
Bah, plus généralement, je dirais que c'est Lens qui a fait tout le match, en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui commencent très bien pendant 20 minutes, c'est eux qui se mettent en difficulté avec ce rouge, qui nous permettent de nous relancer. Enfin, la seule innovation de Paris, c'est d'être passé à 4, où tout à coup, on a trouvé un semblant d'organisation avec des mouvements qui étaient intéressants. Comme l'a dit très bien Julien, on a vu des buts qui étaient extrêmement plaisants. Je vois beaucoup de gens dire du mal de Solaire. Il faudrait peut-être parler de Solaire sur cette période-là. Pourtant, il a été utile dans les transmissions. Solaire, c'est un joueur collectif. Quand il n'y a pas de collectif à côté de lui, ben, en effet, il sert à rien. Quand tu as un collectif à côté de lui, ben, il permet d'accélérer ses mouvements. Il est intéressant à ce niveau-là. Et en deuxième mi-temps, bah, comme Julien l'a dit, c'était une mi-temps qui était honteuse. J'ai lu un commentaire qui disait c'était de la gestion. Est-ce que tu peux te dire que tu es en gestion quand tu as besoin d'avoir les 3 points pour avoir la première place? Tu es à 11 contre 10, à domicile contre ton dauphin. Enfin, il y a tous les arguments pour te dire que tu as tous les intérêts de montrer que tu es le patron. Et encore une fois, on loupe complètement le coche. Lens nous a relancé en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on rentre des vestiaires avec un mode de sénateur. Chose qu'on a trop vu avec ce Paris Saint-Germain-là, cette saison et même d'autres saisons. En tant que supporter, c'est fatigant et limite énervant, en fait.
Alors justement, je te rejoins Z là-dessus, moi, pour compléter cette question. C'est un sujet que je développais déjà en off avant qu'on commence. Je m'étais dit que justement, tu le vois dans l'organisation tactique du match. Tu vois aussi bien du côté parisien que du côté lensois qu'il y a un énorme changement. Avant ce changement, tu vois un Lens qui est sûr de lui, qui joue en 2-3-4-1, qui sait ce qu'il va faire, du moins dans l'animation offensive. Et quand tu as ce rouge de Siamed, bah d'un coup, tu as une logique de réorganisation de cette équipe. Et tu vois que là, d'un coup, l'équipe, elle passe en 3-1-3-2, parce qu'elle passe à 10 au lieu d'être à 11 sur le terrain. Et du côté parisien, tu as le changement de Danilo qui va monter un cran plus haut, qui ne sera plus défenseur dans la défense à 3, mais va être numéro 6, ce qui va permettre à Fabian Ruiz d'être milieu dans le milieu en losange à 4, plus à droite. Et j'ai l'impression d'avoir vu un 4-3-3 presque où Solaire était censé être l'ailier droit qui taffe. Messi le faux neuf totalement libre, finalement ce qui est censé lui convenir le mieux, et Mbappé ailier gauche. Alors il y a eu des permutations, il y a eu ce fameux enchaînement de buts où tu mets 3 buts assez rapidement, où en fait tu dois tuer le match. Je suis désolé, mais à partir du moment où tu arrives à mettre 3 buts assez rapidement, tu dois avoir cette mentalité de se dire bah, tu dois les tuer jusqu'au bout, histoire d'envoyer un message de dire bah, le reste de la saison, il sera facile pour personne en fait. Sauf que là, tu laisses Lens revenir dans le match, et pire que ça, tu ne fais aucun tir avant la 70e minute pendant la deuxième mi-temps. Donc pendant la deuxième mi-temps, tu t'es permis de passer 25 minutes sans tirer alors que tu gagnes 3-0. Je pense qu'il y en a ici qui ont joué en foot en club. Je pense que ce genre de prestation, tu les fais un dimanche, tu prends un débrief bien salé par ton coach. Vous avez pensé quoi de tout ça, vous les gars? Et cette fois, on va échanger, on va commencer par Julien.
Moi, ce que j'ai pensé, c'est que cette équipe, enfin, en fait, ça sert à rien de parler de tactique avec le Paris Saint-Germain cette saison. Je pense qu'il faut oublier parce que j'ai l'impression que cette équipe, il y a pas de tactique mise en place. La tactique, c'est on donne la balle à Kylian Mbappé et Inch'Allah, ça finit par quelque chose, tu vois. Et en plus, Kylian, ce soir, il a été prépondérant sur les buts parce que la talonnade qu'il fait pour Messi, il y a que lui qui peut l'inventer. Son premier but, Monsieur Pivot Gang, qui aime pas jouer en pivot, bah là, ce qu'il fait par 2 fois, c'est parfait dans sa gestuelle. Mais après, bon, sur le reste du match, on le voit quasiment pas. Voilà, tactiquement, le PSG encore à 11 contre 11 s'est fait dévorer par Lens, qui avait une idée directrice et qui savait ce qu'il voulait faire. Après, tu l'as dit, il y a eu des petits réajustements quand ils étaient en supériorité numérique qui a permis après de marquer ces trois buts. Mais c'est trop peu. Enfin, on peut pas se contenter de ça, tu vois. Quand t'es le leader de Ligue 1 et que tu joues le deuxième et que. Donc ouais, non, je suis. Tactiquement, ce PSG, de toute façon, je pense que ça fait longtemps qu'on a tous un peu fait le deuil de s'attendre à quelque chose d'intéressant sur le terrain de la part de Paris. Et voilà, là, ça a été ce soir, on a eu, oui, ça a été des. Il y a eu des moments, voilà. Il y a eu des courts moments sur les 3 buts, en effet, où il s'est passé quelque chose, mais après sur le reste, Paris n'a pas été. Je pense que tactiquement, Paris, voilà, a plus subi et a joué très bas avait peur, je pense, de se faire manger par un Fofana, notamment, voilà, on sait que Fofana, il aime bien partir de loin, il aime bien perforer un peu dans le cœur du jeu, donc Paris a joué très reculé pour éviter ça. Après, forcément, quand t'es en supériorité numérique, tu peux te permettre après de jouer un peu plus haut, mais j'ai pas trouvé un Paris, vraiment en en maîtrise, quoi.
Ben, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi, Zed?
Moi, je vais pas parler longtemps parce que là, je pense qu'on tombe dans la marotte de Basto. Mais ouais, au niveau de ce changement tactique, il y a plusieurs choses qui sont passées. Il y a ce que tu as nommé, mais il y a aussi le fait que Kylian Mbappé se retrouve 9 et donc inévitablement se retrouve 10 mètres au-dessus. Mécaniquement, ça fait monter ton milieu. Et tu te retrouves surtout que tu avais Danilo en 6, tu te retrouves avec une surprésence au milieu, avec des milieux qui sont beaucoup plus intéressants. On peut parler tout à l'heure, j'ai parlé de Soler, mais on peut parler aussi de Vitinha. Ruiz, malheureusement, n'a pas forcément fait un grand, grand match aujourd'hui. Mais on s'est retrouvé avec des transmissions importantes. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est après, je laisserai Basto développer la dimension à 4. C'est le côté, et c'est quelque chose qu'on connaît depuis assez longtemps. On a besoin d'un événement extérieur pour tout à coup trouver des convictions qui nous permettent de nous organiser pour bien jouer. Ça remonte à, enfin, je me souviens, moi, du carton rouge d'Ibra en Ligue des Champions. Et là, on se retrouve avec un rouge. Et pendant 10 minutes, on se fait martyriser. Hein, 11 contre 10, au début, on reste à 5 avant de faire le changement tactique. Mais on arrive à trouver la solution, il y a quelque chose qui se met en place. Et puis voilà, après sur A4, je sais que Basto est chaud sur le sujet, donc je vais le laisser enchaîner.
Je suis pas forcément chaud, on sait que j'aime pas trop ce système A5 au vu de notre effectif. Et là, comme le disait Jules, on n'est même pas dans de la tactique parce qu'on n'a pas vraiment de tactique. On n'est pas dans de la micro-tactique, mais on est dans de la tactique de base, juste un positionnement de joueur. On peut remarquer, je le disais dans nos derniers lives, que Mbappé et ses pires périodes, même en équipe de France hein, pendant l'Euro, c'est dans une défense à 5, avec un rôle hybride d'ailier gauche attaquant où il n'est jamais à l'aise. D'ailleurs, je faisais un petit message juste avant son but, je disais « Ah, on va passer en 4-3-3, Mbappé va être bon, il marque une minute après. » Bon, ça c'est un peu de chance, et puis on va pas en parler parce que Lens est à 10, donc ce n'est pas sur ce soir forcément qu'on voit l'impact de ce système. Mais j'ai toujours pensé que dans ce PSG-là, avec ces joueurs-là, tant qu'on n'a pas un milieu qui a un gros volume de jeu, forcément, tu seras plus à l'aise avec trois milieux qu'avec deux. On a vu Vitinha monter d'un cran de 10-20 mètres. Messi est beaucoup plus à l'aise quand il peut être plus haut, parce qu'avant le rouge, il joue quasiment comme un 6. Des fois, il va plus bas que Ruiz, plus bas que Vitinha, beaucoup plus bas que Soler. C'est le premier joueur, après les centraux, hein, c'était notre numéro 6 pendant un bout de temps. Rajouter un milieu, ça lui permet d'être plus haut. Mbappé, d'un coup recentré, on voit qu'il est aussi plus à l'aise. Il a fait mal à Medina, qui avait eu des déclarations, notamment sur lui, peut-être que ça a joué. Mais être face à Medina en un contrat plutôt que face à Frankowski, ça l'a aussi aidé. Et que ce soit ce soir ou depuis 2 ans dans ce système, on voit qu'il n'y a pas vraiment de diff pour nos pistons. C'est censé être vraiment un système, une animation pour nos pistons. Mais Nuno, que ce soit à 4 ou à 5, est toujours aussi influent offensivement comme défensivement, et Hakimi est toujours aussi peu présent offensivement, que ce soit à 4 ou à 5, donc ça ne change pas grand-chose là-dessus sur l'animation de nos pistons. Sur le reste, je trouve que ça met plus en valeur Messi et Mbappé, et quand on n'a pas de collectif, il faut s'en remettre à nos individualités fortes.
Et en sachant, je te trouve un petit peu sévère là-dessus, en sachant que sur ces 10 minutes, les milieux, on parle notamment de Vitinha, on parle pour moi de Soler, les milieux ont amené, je pense notamment au deuxième but, où il y a, je crois, une séquence d'une vingtaine de passes avant.
Ouais, parce qu'il remonte.
Mais voilà, c'est ça. Et c'est ça, en fait, si tu veux, c'est qu'on a, on a des joueurs qui savent jouer au ballon. On a un Vitinha qui sait jouer au ballon, on a un Soler qui savait le faire à Valence, et tout à coup, en effet, qui sait le faire. Et c'est juste que tout à coup, quand tu les mets dans des dispositions où ils ne sont pas obligés de partir de la ligne médiane, ça change. Ils sont capables de faire des transmissions, ils sont capables de faire des animations, de trouver ce fameux temps d'avance qui nous fait tant défaut le reste du temps. Il n'y a qu'à voir en deuxième mi-temps, la notion de temps d'avance, elle n'existe plus parce que tu as tous tes mecs qui partent de la ligne médiane. Et ils ont trop de temps de retard, ils ont tout de suite quelqu'un qui les chasse, du coup leurs passes ne sont pas aussi tranchantes, il n'y a pas assez de mouvement, etc. Enfin, tu vois, le truc, c'est qu'on est tout le temps en train de parler de la statistique, que les mecs soient statiques et ne bougent pas, mais pour qu'ils bougent, tout de suite tu les fais monter devant et tout à coup les appels ils existent, parce que faire un appel ça fait sens, etc. etc. Donc il n'y a pas que les individualités, et je trouve que justement résumer le problème aux individualités, c'est oublier toute cette dimension tactique qui est essentielle. Et là, la tactique, on l'a eu parce qu'on a eu de la chance, hein, comme souvent avec Galtier, quoi. On s'est pris un carton rouge, enfin l'équipe adverse s'est pris un carton rouge, et tout à coup on a eu l'opportunité d'avoir de la tactique, malheureusement qu'on n'a pas su poursuivre. Mais il y a une ébauche de tactique qui apparaît, ne serait-ce que parce que le bloc monte, parce que comme tu l'as très bien dit, Vitinha joue 10 mètres plus haut, Soler joue à la même hauteur, ça permet de libérer Messi qui tout à coup va avoir une zone d'influence et va pouvoir trouver des passes qui seront dans les 30 mètres adverses, et ça change.
Après, C'est pas que la tactique parisienne, comme disait Tonton, c'est aussi Lens qui est obligé de changer et qui a tout. Quand t'as pas Samed, en fait, Lens, t'as aucun équilibre. Et ça change tout.
Mais Dinan, le plus conseil,
il faut regarder la deuxième mi-temps.
Ce qui était déséquilibrant aussi. Ce qui a été déséquilibrant aussi avec le PSG, c'est que sur les buts, il faut remarquer qu'à chaque fois, c'était sur des phases de jeu rapides, en fait. Les ballons, le ballon, c'était pas de la possession, ça a été des remises, des redoubles. Bah, le deuxième, ouais, mais sur le. Attends, le deuxième, c'est le.
Je confonds peut-être au niveau des noms, mais celui où
il y a. Non, le deuxième, c'est la frappe de Vitinha, c'est le troisième où il y a.
Non, la frappe, ouais, frappe de Vitinha, c'est le troisième, pardon. Mais sur le but de même, le but de Papé, tu vois, c'est des redoublements de passes, ça va hyper vite, en fait. Le bloc, il a pas le temps de se repositionner. C'est. Techniquement, c'est joué très très propre et c'est ça qui fait la diff, tu vois. Et c'est ce genre de prise d'initiative qu'on n'a pas assez souvent vu. Et par exemple, tu vois, on sait qu'un Vitinha est capable de le faire parce qu'il l'a fait en début de saison. Il avait vraiment été hyper impressionnant sur ses premiers matchs. Après, il a un petit peu disparu pour des raisons qui nous échappent. Mais voilà, donc je pense que le PSG a. En fait,
j'ai envie de te demander, est-ce que tu crois, ce dont j'ai l'impression, c'est que tout à coup, effectivement, tu te retrouves avec ce genre d'initiative parce que tu as les joueurs qui se retrouvent plus souvent dans leur zone préférentielle et partent d'endroits où ils peuvent plus être à même de le faire. Et la problématique, si tu veux, c'est qu'on est en train de pester, notamment contre des joueurs. Mais parce qu'ils sont mal placés, mal agencés, mal organisés, tout simplement pour pouvoir faire mal par rapport à leur capacité et à leur qualité, quoi.
Ouais, mais après, je pense qu'aussi, il y a un problème. Enfin, le fait que tu aies, par exemple, un joueur comme Messi, ça inhibe aussi, je pense, beaucoup de joueurs. Et tu as des. Tu vois, par exemple, un Vitinha, là, il a frappé. On le voit trop rarement frapper. Il était en bonne position, mais il y a des fois où il est dans la même position, il va plutôt chercher la passe, il ne va pas oser, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi ce problème-là, enfin, dans la gestion d'effectifs, où tu as des joueurs qui n'osent pas tenter, quoi, alors qu'ils devraient le faire. Plus Vitinha, tu vois, quand il était à Porto, alors il n'a pas marqué des milliards des buts, mais il y a quand même sur des, je me rappelle des vidéos de lui où on le voyait tenter de loin, qu'il avait une bonne frappe. Et là, bah, tu vois, ce soir, il a pris sa chance, sa frappe a été nickel. Et c'est des trucs qui manquent un peu, tu vois. Et je pense que c'est au-delà d'un problème de positionnement ou quoi, c'est que des fois, t'as l'impression que certains joueurs du PSG sont pas totalement libérés, tu vois. Et est-ce que c'est à cause de la présence de Messi? Est-ce que c'est quand il y a les trois Messi, Neymar, Mbappé? Enfin, tu vois, t'as l'impression qu'ils sont pas mis dans les bonnes conditions, si tu veux, pour performer. Même comme un Solaire, tu vois. Un Solaire, on sait pas vraiment c'est quoi son rôle, on sait pas c'est quoi son poste. C'est pas du tout le même Carlos Soler qu'on a vu, par exemple,
à Valence, tu vois. J'explique plus par un manque de coaching que par une présence de Messi.
Il y a de ça aussi, certainement, bien sûr. Après, il y a le coach.
Juste, tu vois, l'exemple de Vitinha, il a tenté plein de frappes. C'est vraiment pas sa première tentative. Ouais. Et justement, on était tous. Mais pourquoi il cadre pas alors qu'effectivement, à Porto, il encadrait. Et surtout, après, c'est le Wolves, je crois qu'il en a eu pas mal.
Vitinha joue très différemment quand il n'y a pas Verratti et Neymar à côté de lui.
Ah, ça peut être, mais en tout cas, aujourd'hui, il l'attend et il y a Messi sur le terrain. Quoi.
Bien sûr.
Alors, avant de lancer les sujets du chat, parce que j'en ai noté quelques-uns, j'ai trouvé quelques questions intéressantes dans le chat, et comme d'habitude, on donnera la parole au chat. On fera remonter les sujets, du moins, qui ont été intéressants dans le chat. Je vous propose qu'on fasse un peu les top et flop, la séquence un peu habituelle. C'est vrai qu'on a été assez rapide ce soir, donc ça nous laissera plus de temps pour parler avec le chat, ce qui n'est pas plus mal aussi. J'allais vous dire, c'est qui vos top et flop ce soir? On va commencer par Julien, vu qu'il est à côté de moi. Et je te laisse commencer, soit tes tops, soit tes flops. Comme tu
veux. Dans les tops, mine de rien, Kylian, c'est un but, une passe D. Ça faisait trois matchs qu'on ne l'avait pas trop vu. Mais après, il y a aussi fait une seconde période où on ne le voit plus. Donc, c'est ça qui est un peu paradoxal.
C'était top,
Et un autre que j'ai bien aimé en top, et je trouve que c'est bien ce qu'il a confirmé par rapport à ce qu'il avait fait à Nice, c'est Donnarumma qui était quasiment irréprochable tout le match. Quoi. Après, bon, penalty, c'est un penalty. Je ne peux pas tout le temps les stopper, mais en tout cas, dès les premières secondes, c'est lui qui sort déjà un arrêt. Il a quand même été pas mal de fois sollicité. Je trouvais qu'il était très, très propre. Et puis je mettrai aussi Vitinha un peu dans mes tops parce que pour le coup il a vraiment fait des matchs dégueulasses ces dernières semaines et là je l'ai trouvé vraiment intéressant sa frappe même sur le but de Mbappé, il est aussi dans le mouvement collectif, enfin voilà, je crois qu'il était il avait fait un match plutôt intéressant ce soir au Parc. Voilà.
Et tes flops?
Flop, alors Marquinhos, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté. Il s'est beaucoup fait bouger par Openda. Je ne l'ai pas trouvé spécialement rassurant. Hakimi, j'ai trouvé aussi décevant parce que même quand offensivement il a des cartouches, il les met pas. Celle qu'il a en seconde période, là, quand il récupère le ballon, il se présente face à Samba, il doit mieux terminer. Et même plus globalement, voilà, son seul mérite, ça aurait été d'avoir fait expulser Abdul Samed. Et il a pris vraiment une sale semelle, ça c'est clair, tu vois. Mais je l'ai pas trouvé. Ouais, enfin c'est pas le Hakimi qu'on a pu voir à l'Inter ou à Dortmund. Enfin, c'est globalement une déception. Et ce soir, j'ai trouvé décevant, quoi. Voilà.
En top, Nuno, mon Nuno d'or. Non, mais ce joueur est extraordinaire, quoi. Il est juste hallucinant. Alors, il fait une petite erreur, je crois, à un moment défensive, un mauvais placement, il me semble. Mais à côté de ça, il est très bon défensivement. Devant, c'est un délice. Il crée des solutions. Il est intelligent dans ses choix. Il sait se recentrer quand il faut. Il sait prendre son aile quand il faut. Ses centres sont redoutables. Quel joueur, joueur extraordinaire. Je vais mettre Solaire pour ces 10 minutes parce qu'on le critique suffisamment souvent. Là, j'ai envie de prendre sa défense et puis Kylian Mbappé a
La
déjà
tête
été
de
nommé.
tonton là, tu
Ouais, mais moi
Non, mais
je le mets sur ces 10 minutes. Il apporte beaucoup au collectif. Une fois qu'il y a un collectif, c'est un joueur qui te c'est le genre de joueur qui sublime un collectif en fait. Et bah, effectivement, Paris Saint-Germain, il n'y a pas de collectif, donc il sert à rien la majorité du temps. Mais quand il y a un collectif et pendant 10 minutes, il y a eu un collectif, il a été extrêmement utile. Et du coup, j'ai vraiment envie de le mettre en avant. Et pour terminer, ouais, Donnarumma, c'est sans lui, le match il est complètement différent. Il te sort un arrêt monstrueux à la première minute. Il en sort un autre, je crois. Il y a toujours pas un zéro. Enfin, on est toujours à 0-0. Il a déjà sorti deux arrêts qui étaient décisifs. Il en sort trois sur le match. Il a été monstrueux. Bah ouais,
Non,
Solaire a joué.
excuse-moi le commentaire,
t'es
ça
flop
parut
avant.
sauvagement.
Ah, les flops? Mais je sais pas si Julien n'avait pas
Ah oui,
pris ses flops.
excuse-moi,
Mais...
excuse-moi.
Ah, si, c'est top
Si,
flop.
il les a fait, mais.
Ah ouais, ok, d'accord.
Et toi, écoutez, je suis là. Moi, je me trouvais bizarre.
Marquinhos, c'est un no-brainer. Il s'est fait. Enfin, on avait l'impression qu'il était junior quand il était en train de jouer à côté d'Openda. Juste, il s'est fait dévorer. Mais vraiment, enfin, il n'existait plus, quoi. Hakimi, ouais, il est flop sur ce match. J'ai juste envie de lui trouver les circonstances atténuantes, le contexte. C'était un joueur qui revenait à peu près, même s'il était décevant, il revenait un peu mieux à Coupe du Monde et un peu après. Et puis derrière, il y a ce contexte, on va pas en parler, mais voilà, qui est pas super cool pour lui. Et donc, je trouve quand même des circonstances atténuantes. Et puis après, je vais nommer Ruiz, qui est pour moi a été le maillon faible du milieu ce soir. C'est là où Solaire, en fait, je le sauve à cause de 10 minutes. Hein. Je dis pas que le match de Solaire était bon, mais je le critique suffisamment souvent pour pouvoir le sauver là. Ben Ruiz, il n'y a même pas ces 10 minutes à se mettre sous la main. Il est responsable sur le pénalty. Alors, on en parlera sans doute après, parce que c'est comment on interprète la règle, blablabla. Mais
Il y a une nouvelle règle.
pas bon dans
C'est
le
très
match.
bizarre, très
Ouais,
très bizarre ce penalty.
voilà, c'est impossible de suivre, mais pas bon dans le match. Pénalty, difficile de ne pas le mettre en flop pour moi.
Basto. T'attends toujours aussi salé, bien entendu.
Non, je crois qu'ils ont été plus ou moins tous cités, évidemment. Nuno, Donna, c'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué, il nous fait gagner les 3 points à Nice et ce soir, sans son arrêt à la
Messi, hein.
cinquième, c'est plus la même. On n'a pas cité Messi, on n'a pas cité Danilo qui a été aussi bon ce soir en DC. Non, c'était celui qui était un peu l'assurance tout risque en DC avant le changement de système et en milieu où il a fait le job. On peut parler d'un soir, Openda, moi j'adore ce joueur. Alors c'est vrai que quand il y a des équipes regroupées, il a un peu plus de mal, il a besoin d'avoir vraiment de profondeur, il a des périodes de trous où il va pas marquer pendant 4, 5, 6 matchs, puis d'un coup il va mettre 2 triplés. Donc il a encore cette irrégularité, mais c'est un joueur, tu vois, qui me fait penser à Jonathan David à ses débuts à Lille avant de trouver sa régularité.
Oui, marqué pas beaucoup, mais utile dans le jeu, oui, je vois ce que tu veux
C'est
dire.
ça. Ouais, et en flop, je vais mettre un Lensois, tiens, je vais mettre Brice Samba qui est peut-être le meilleur goal de Ligue 1 cette saison avec Paul Lopez, mais sur le deuxième but, il est un peu bizarre. Il faut le souligner parce qu'il ne l'est pas souvent. Donc ce soir, pas vraiment décisif. Il fait un ou deux arrêts à 3-0, 3-1, ok, mais il est un peu bizarre sur ce second but, mais C'est pour chipoter parce qu'il fait une saison extraordinaire et il mérite largement sa place en équipe de France. En flop, j'avais aussi Ruiz, qui est un joueur que j'adore, mais il faut avouer qu'au PSG...
Ce soir,
il faut avoir un minimum d'exigence, tout simplement, au moment.
Et j'ai un top flop pour ouvrir un débat. Alors, on ne parle jamais d'arbitrage ici, et l'arbitrage a fait un bon match. C'est pas sur l'arbitre. C'est pas sur l'arbitre du soir. Alors... C'est sur le VAR. C'est différent.
Alors, si je... ça, c'est un autre sujet encore.
Je peux l'aborder.
Non, ça, tu pourras l'aborder plus tard si tu veux. Tu pourras l'aborder dans la rubrique après top.
Dans la rubrique question, sur le pénalty, pourquoi le règlement, etc. On en reparlera plus tard.
Alors. Justement, je l'expliquerai. Et si tu veux, tu pourras même apporter ta contribution au débat. Moi, je vais donner mes top et flop. Tiens, justement, j'allais dire, au niveau des tops, j'ai essayé de faire que des Parisiens. Je ne vais pas faire comme Basto qui a triché en prenant des Lensois pour essayer de,
de masquer triche, ce qu'il aime. Je
non, mais d'habitude, tu ne cites pas les autres équipes Basto.
Ah, mais ils avaient été tous dits, il faut en trouver d'autres.
bien sûr. Alors, tu peux l'interpréter différemment. Moi, je t'avoue que dans mes tops, j'ai envie de mettre Vitinha parce que, comme Hitch l'a très bien qualifié en début de saison, c'est un milieu qui est très scolaire. Et là, ce soir, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a lâché les chevaux. Et ce soir, Vitinha, c'est un but, c'est une passe décisive. Et parmi tous les buts qu'il a tenté de mettre depuis le début de saison, ben, en fait, il arrive peut-être à mettre le plus dur. Donc moi, la question que je me dis, c'est, je pense qu'il y a un réel problème de confiance chez ce joueur. Est-ce que tu arriveras à en faire une deuxième bien meilleure saison à l'image d'un Jack Grealish à Manchester City qui fait une première saison catastrophique et qui renaît cette année ? Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, Vitinha fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs ce soir et même il stat. Donc je vais mettre Vitinha en top ce soir. Comme je vais mettre Donnarumma, qui est toujours aussi régulier, mais ce soir fait un bon match. Il peut arrêter le pénalty, parce que c'est ce qu'on attend de Donnarumma, qui a quand même cette capacité d'être bon sur pénalty. Bien sûr, mais après, il prend le pénalty, ça arrive. Ce n'est pas comme s'il avait encaissé 100 pénaltys sur 100 tirés depuis son arrivée au PSG. Donc, il prend son but, ce n'est pas grave. Il fait un très bel arrêt aussi sur la frappe de Frankowski, mine de rien, même si la balle, je ne suis pas sûr qu'elle ait été cadrée. Donnarumma fait son taf, donc je le mets en top. Et en dernier top, j'ai envie de mettre Nuno Mendes parce que se propose toujours, il est dynamique. Il y a cette phase un peu folle là où il arrive, il dribble un joueur, il met un grand pont sur le deuxième, le ballon ne sort pas, mais l'arbitre dit que le ballon sort, où tu es frustré, où tu te dis, mais arrêtez ce mec-là, il faut faire quelque chose, il faut que tu fasses faute. Tu ne peux pas laisser passer ce mec, sinon il va aller jusqu'au bout. Et même ce fameux rush solitaire où à un moment il dribble plusieurs joueurs, il met un espèce de contact crochet à l'entrée de la surface. Et c'est dommage qu'il ne lève pas la tête parce qu'il tire à côté, mais s'il met un but à la suite de cette action, t'es sur une des plus belles actions de l'année. Et c'est dommage, mais Nuno tente de plus en plus. Et c'est vraiment un vrai plaisir à voir ce joueur.
Et il est très bon défensivement, contrairement à ses premiers mois. En plus, défensivement.
Ah, mais ça, je l'évoquais déjà la semaine dernière où je disais que Nuno, l'avantage, c'est qu'il arrivait avec cette habitude de jouer dans une défense à 5 à Lisbonne. Et finalement, à Paris, il joue à 4 dans la première année. Ça ne lui pose aucun problème. Et il te montre qu'en fait, il a évolué chez nous, il a progressé. Et finalement, il n'a plus la contrainte de système qu'il avait en arrivant. Donc vraiment. Une des meilleures recrues sous QSI, Nuno Mendes, et il n'y a pas à s'en plaindre. Au niveau des flops, parce qu'il va falloir y venir un peu, je vais mettre Achraf Hakimi, parce que j'entends qu'il ait des problèmes personnels au niveau privé, entre le divorce et l'affaire judiciaire, que je n'évoquerai pas plus que ça. Je peux entendre également que quand tu es footballeur, pour ceux qui ont déjà fait des matchs, te manger une paire de crampons au niveau de la malléole sur le tibia, ça chatouille un petit peu et que derrière, tu dois serrer les dents. Parce qu'il y a une réalité aussi à rappeler, c'est que Pembele et Mukiele sont blessés et que Hakimi n'a pas de remplaçant. Et si Hakimi se blesse, et qui tu mets à sa place? Est-ce que tu retentes une 2013 et tu mets Marquinhos arrière-droit? C'est un peu compliqué. Donc Hakimi, il subit un peu tout ça. Ça n'empêche que ce n'est pas le même joueur que quand il était à l'Inter à Dortmund. Je ressens totalement Florian là-dessus. Julien, pardon, excuse-moi.
C'est pas grave.
Julien, je romans, je suis désolé. Mais non, je rejoins Julien, c'est pas le Hakimi de l'Inter, c'est pas le Hakimi Dortmund. Je pense que ça s'explique aussi parce que c'est pas la même animation, le jeu ne tourne pas du même côté, le jeu penche pas du tout du même côté aussi. Mais Hakimi n'est pas le joueur qu'on a recruté à l'Inter, ça c'est clair et net. Il fera notre meilleur match au PSG, c'est une vérité aussi, mais on prendra le temps de l'évoquer dans les joueurs.
Il fait une belle Coupe du Monde.
Il fait une belle Coupe du Monde, bien sûr, mais encore une fois, pas la même. Tu vois, pas le même contexte.
Non, c'est vraiment à Paris.
Et non, mais il fera partie des joueurs dont on parlera dans le chat. Et justement, j'allais toucher Galtier. Son excuse, c'était qu'il y avait trop de matchs et maintenant ou qu'il joue un match par semaine. C'est quoi son excuse? On n'en joue pas assez, donc il manque de rythme. T'inquiète, il va te la sortir à un moment. Non, blague à part, c'est vrai que Galtier est très très bon en ski, il est très très bon en dribble, il est très très bon pour feinter et faire des petites déviations pour qu'on oublie le fond du problème. Galtier, c'est mon dernier flop, ça tombe bien parce qu'il m'en manquait un à placer. C'est Christophe Galtier. Je ne comprends pas sa gestion de Renzaïre-Emery. surtout quand on voit le niveau des autres milieux. Comment Fabian Ruiz peut ne pas sortir et Warren Zaïre-Emery rentrer aussi tard dans le match? Moi, j'entends, il y a quelque chose que j'évoquais dans les précédents lives et même en space. J'entends l'argument de si tu ne veux pas garder un joueur et que tu veux le vendre, il faut que tu fasses croire qu'il a un minimum d'importance et que tu lui donnes du temps de jeu et de l'exposition pour arriver à le vendre. Pas de problème. Par contre, à un moment, quand un mec comme Warren Zaïre-Emery qui fait une entrée comme il fait, récupère le ballon, se projette, donne le bon ballon au bon moment et qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il est utile et fait le bon choix, bah moi, en fait, je trouve qu'il faut aller piquer un peu l'ego de tes titulaires et les mettre un peu, je sais pas, tu mets un jeune titulaire de 17 ans et il fait le taf, je sais pas, tu as 28 ans, 29 ans, tu es international espagnol, portugais, tu te remets en question. Je sais pas, tu vois le match, tu te dis, si je veux avoir un avenir, il va falloir que je me bouge un peu les fesses parce que c'est pas normal qu'il y ait un petit du centre de formation qui arrive et qui me mette à l'amende et qui fasse que moi, je ne fais pas sur le terrain. Enfin, je sais pas. Mais après, encore une fois, je n'ai pas les diplômes de Christophe Galtier, je ne suis pas à sa place, je ne vais pas lui apprendre son métier, ce serait assez triste. Tu voulais ajouter quelque chose, Basto?
Ouais, je ne suis pas forcément totalement de ton avis sur Zaïre-Emery, dans le sens où on lui a aussi reproché de le mettre à Rennes ou à Munich comme fusible, où d'ailleurs Emery n'a pas forcément été bon. Rennes, il a été moyen, Munich, il n'a vraiment pas été bon.
Je ne t'ai pas dit de mettre titulaire.
Ouais, mais là, après, le problème, c'est que c'est vrai qu'il disparaît un peu. Maintenant, il rentre à la 88e, on ne le voit même plus en cours de jeu. Maintenant, ouais. je pense que ce n'est pas une question de mettre Ruiz ou Soler en valeur pour les vendre. Je pense que dans la tête de Galtier, c'est le PSG doit gagner le titre. Et pour lui, il faut des joueurs d'expérience. Contre l'expérience, Zaïre-Emery n'en a pas et ce n'est pas le moment de le lancer. Je peux le comprendre là-dessus. Emery ne ferait pas forcément moins bien, c'est sûr. Mais je comprends cet argument pour le coup.
Alors, il y a une petite blague. Attends, il y a une petite blague dans le chat. Je vais être obligé d'y rebondir. Il y a Midouche qui m'a dit que je devrais passer mon BAFA. Comme ça, je serai un très bon accompagnateur. Alors, figure-toi que j'ai le BAFA. J'ai même le BFD. J'ai le diplôme de moniteur éducateur. Donc, t'inquiète, si tu veux, je te gère cette équipe à l'ancienne. Mais est-ce que tactiquement, j'aurai les prérequis pour être un bon coach? Je n'en suis pas si sûr.
Tu fais des pierres feuilles ciseaux, toi aussi. Tu sais y jouer. Donc, ça marche à l'entraînement.
Exactement. Et on ferait même des marelles pour travailler les appuis et être sûr d'éviter les blessures aux chevilles. Ça ne vise bien entendu personne dans l'effectif. Blague à part, on va maintenant attaquer les sujets du chat parce que j'ai relevé quelques sujets intéressants et des questions qui ont été posées dans le chat tout au long de ce live. Notamment, est-ce qu'on va aborder sérieusement le cas Achraf Hakimi? Est-ce que Vitinha n'est pas en train de se libérer en l'absence de certains joueurs? Il y en a un autre que tu voulais peut-être aborder, Dreyas. Vas-y, dis-moi. Galtier se sent obligé de jouer ses recrues Ruiz et Soler. À force d'insister, Sanchez l'a tué. Alors, Sanchez, c'est avec un S. Sinon, c'est un Espagnol ou un Mexicain.
Et puis Galtier n'a pas... Enfin, Sanchez n'a pas eu besoin de l'aide de Galtier pour se mourir. Et il est mouru tout seul, en fait.
Le problème de Sanchez,
il rentre deux minutes et puis il se blesse. Hein, c'est Sanchez. Il n'y a pas besoin de l'intervention du coach. C'est peut-être sa plus grande qualité. En tout cas, c'est celle qu'il expose très, très souvent, qu'il exposait beaucoup à Lille et qu'il continue d'exposer à Paris. Je ne comprends pas comment il y a des gens qui peuvent défendre ce joueur au vu de son apport. Je voulais juste dire ça.
Non, après Renato, lui, pour le coup, j'allais dire, autant j'aime bien tirer sur Galtier, t'as pas besoin de me donner beaucoup de cartouches pour que je le fasse, autant j'allais dire Renato, c'est un joueur qui est ce que j'appelle un haut potentiel de blessure. Tu vas pas te plaindre que Renato soit blessé, ou alors peut-être que tu ne connais pas le joueur, que tu n'as pas l'habitude de le voir jouer, que évidemment, si ça ne t'a pas traversé l'esprit, là t'es surpris.
Mais okay. un petit tour sur Transfermarkt, il suffit d'aller voir la liste des blessures de Renato Sanchez. Ça doit être il y a des tabulations, et Renato Sanchez, ça doit être un des joueurs en activité pour lequel il y a le plus de tabulations, tellement il y a de pages de blessures.
Oh, je pense que depuis Abu Dhabi, ça doit être celui qui
a. Il y a Fion Calme dans le calme qui me dit qu'il est conseiller d'insertion professionnelle. Tu devrais peut-être conseiller un nouveau métier à certains dans le milieu du PSG. Je te laisserai te faire tes propres conclusions. Blague à part. Alors, au niveau des sujets abordés dans le chat, et je vais laisser Julien parler parce que ça fait un petit moment que vous lui piquez la parole et on sait que quand vous la prenez tous les deux, c'est pas facile de vous la prendre.
C'est pas grave, je suis dans le partage, moi, il n'y a pas de souci.
J'allais demander, Julien, justement, la question du chat concernant. Achraf Hakimi, qui nous a été demandé par ici, qui nous demandait si on allait aborder Achraf Hakimi, si on avait un peu de temps. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé concernant Achraf Hakimi ce soir, ou en particulier depuis qu'il est au PSG? Parce que c'est vrai que tu n'es pas forcément un habitué de l'émission.
En fait, le problème d'Hakimi, c'est déjà de savoir dans quel système tu veux le faire jouer. Est-ce que tu l'as recruté pour jouer dans un système en 3-5-2 en étant un piston? Est-ce que tu veux le faire jouer dans une défense à 4 où la tâche n'est pas tout à fait la même? Et après, quand tu joues avec des pistons, je pense qu'il faut aussi avoir des joueurs qui sont en capacité de recevoir des centres. Or, au Paris Saint-Germain, ça ne vous aura pas échappé que Lionel Messi haut comme trois pommes et Kylian Mbappé sont jeu de tête de N2, c'est pas vraiment le cas. Donc déjà, ça c'est problématique quand tu joues avec des mecs qui débordent dans les couloirs et qui sont censés centrer si t'as personne pour arriver pour être à la réception du centre. Donc ça, déjà, c'est compliqué de mettre en valeur à ce niveau-là Hakimi. Et après, je trouve que je sais pas, autant l'année dernière quand il y avait Di Maria, il n'y avait pas de connexion entre les deux et on sentait que Di Maria, t'as l'impression qu'il jouait avec des œillères et qu'il voulait pas donner le ballon à Hakimi. Autant là, Hakimi, je pense qu'il a une bonne relation technique, que ce soit avec Kylian Mbappé, ça c'est évident, même avec Messi, avec d'autres joueurs, ou avec Neymar, ça va, mais je trouve qu'il, je sais pas, je sais pas si c'est l'extra sportif qui le met dedans, est-ce que c'est toute l'énergie qu'il dépensait avec le Maroc, parce que aussi avec le Maroc, il a joué blessé, il a plus joué avec l'amour du maillot que vraiment dans un état physique normal. Qu'il est revenu péter au PSG, et forcément, tu peux pas quand t'enchaînes des matchs de Coupe de France, championnat, Ligue des Champions, enfin, à un moment, tu peux pas, quoi. Tout ça fait que, bah, globalement, t'as un Hakimi qui est très décevant, qui stat pas beaucoup, et qui fait que, bah, je m'interroge vraiment sur, voilà, est-ce qu'il faut le garder, est-ce qu'il faut se poser la question, quoi. Parce que c'est un actif, tu l'as payé cher, peut-être que il est pas compatible en fait pour Paris et que tu peux peut-être le revendre et vu qu'en ce moment tu as besoin d'argent, bah ça peut peut-être se réfléchir quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah,
Pour le moment, je suis déçu en tout cas. Pour le moment, en tout cas, moi je suis déçu de son rendement quoi.
ça pourrait faire sens, surtout que enfin, on n'arrive toujours pas à savoir dans quel système on va jouer. A priori, tu veux partir pour une défense à 5, mais tu recrutes un joueur qui est compatible avec la défense à 5, mais qui a priori est plus compatible pour le football parce qu'il a une sciatique qui va donc, et toi, je veux dire, il y a toujours le flou intégral. Effectivement, si tu joues à 4, Hakimi, c'est vraiment pas le bon choix. Et c'est un joueur qui, mine de rien, voilà, c'est très sensé ce que tu dis, parce que c'est un joueur qui, même s'il sort de deux saisons qui sont moyennes avec le Paris Saint-Germain, garde une vraie valeur marchande et restera une opportunité pour tout un tas de clubs, et donc devrait pouvoir trouver une porte de sortie. Maintenant, je trouve ça un chouïa dur, dans le sens où c'est un joueur t'as nommé beaucoup des raisons et c'est un joueur qui a retrouvé de la générosité à partir du mois de novembre et qui l'a retrouvé au-delà de la Coupe du Monde. Et après, tu l'as nommé, il y a ce que tonton disait tout à l'heure, il y a aussi tous les remplaçants du poste potentiel qui sont sur le flanc. Et donc, on a un joueur
Ah bon, on tire sur la corde. Oh ouais, on tire sur la corde avec lui. Ouais.
Et si tu
Oh,
veux,
la bonne question de Franck.
T'en
Alors,
arrives
c'est.
à. Mais en fait, Franck, le problème, c'est pas qu'aucun joueur n'est compatible pour Paris. Le problème, c'est. Non, mais non, j'ai pas ouvert. Mais oui, c'est qu'à la tête du club, il y a un président qui n'est pas forcément compatible pour le foot. Mais bon, ça, on va pas partir là-dedans. On va pas s'en
Putain,
sortir.
Zeg, c'est
Et
chiant, c'est
mais
chiant.
voilà,
Rappelle la
mais
cumulation
voilà,
par tes fesses
et
cette
du coup,
année,
si tu
Franck.
veux, on se retrouve avec un Hakimi. Je t'ai pas entendu, tonton.
Je disais, à cause de ton intervention sur Nasser, on n'aura pas la cumulation par le PSG à la fin de saison.
Ah.
Donc vraiment, tu nous tires dessus, Zed, hein,
Bah
vraiment.
alors, moi qui la voulais absolument. Et donc
T'as
ouais,
pas
et on lui tire
pour
dessus, on lui tire
Maya,
dessus
ça,
dans
pour
un
sortir
contexte. On lui
dans Paris.
tire
Vas-y,
dessus
Zed,
dans
t'as.
un. Attends, on lui finit juste. On lui tire dessus dans un contexte où, et physiquement c'est dur, alors qu'il était en train de revenir bien, il y a le contexte mental, il y a tout ça qui joue. Et donc je trouve ça un peu dur, tout ce qui se prend sur la tronche en ce moment, si on prend tout ça en compte. Après, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que. Sur le terrain, même quand il était à son meilleur, on a juste retrouvé la générosité, mais personne n'a retrouvé le Hakimi qu'on espérait voir de Dortmund. Et il a malgré tout une valeur marchande. Et je vais passer la parole au Basto parce que sinon, bientôt, il va prendre un truc et me taper dessus parce qu'il va trouver que je parle trop longtemps.
Non, c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, Hakimi. Mais Hakimi, la vraie question, c'est si on le vend, mais pour qui? Tu vois, il n'y a pas vraiment. C'est compliqué, c'est
Trop brave.
compliqué.
Alors,
Bon, tu
alors.
trouveras pour faire quoi? Tu trouveras pour faire quoi? On a eu qui avant? On a eu
Moi, je
Aurier,
l'ai,
le
mais.
top 3 monde, selon certains, qui pour moi, tactiquement, était nul. On a eu Vanderbilt, pas si mauvais. On a eu Alves, on a eu Meunier. Pour qui? Pour qui? Ça sera court pas
Ah, tu
les
veux
rêves.
dire pour le remplacer, pour
Bah oui!
Aspikin. Ah,
Oui, pas pour le
ah oui,
vendre, pour le
ça oui.
remplacer. Hakimi n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Alors, il y a quelque chose pour le défendre. Nuno a tout de suite une relation avec côté gauche, Verratti, Mbappé.
Il a dit quoi sur toi?
Non, parce qu'en fait, Zed avait
foot et le mec qui m'a répondu que Mbappé était très compatible avec le football.
Pour revenir à ce que je disais que Nuno, lui, a tout de suite une relation côté gauche, Verratti, Mbappé, comme Bernat pouvait l'avoir d'ailleurs avec ce côté gauche, qui est préférentiel au PSG, on le sait, hein, ce côté gauche. Donc c'est plus difficile pour Hakimi, qui a eu Di Maria un moment, puis maintenant, qui a Messi, puis qui a eu Ruiz un moment qui libérait, c'était pas mal pendant 2-3 matchs, puis on sort Ruiz, puis on lui met Solaire. Donc il a eu pas mal de changements où il n'a jamais eu le même relayeur droit, pas forcément le même ailier droit. Donc ça, par rapport à Nuno, c'est quelque chose qui s'entend. Maintenant, quand tu vois Mukiele, qui a eu le même défaut, qui a été plus présent offensivement avant sa blessure en 2023 qu'a pu l'être Hakimi, alors que Mukiele a moins de talent que Hakimi, bah, il n'est pas totalement excusable, Hakimi. Il a des circonstances, mais c'est évidemment pas suffisant maintenant, encore une fois, remplacé par qui? Non, pour moi, tu le gardes, il n'y a personne.
Alors, le problème, j'allais dire, c'est qu'il faut prendre la balance et peser les deux côtés, le pour et le contre. Tu peux te dire, Hakimi, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. C'est un joueur qui, s'il est bien exploité, peut être clairement top 3 à son poste et il ne sera pas troisième. Seulement, est-ce qu'au PSG, on arrive à en tirer la quintessence? Non, ça, c'est une réalité. Il y a des facteurs qui l'expliquent. On ne dit pas que c'est forcément que de la faute d'Hakimi. Il y a des contextes. On les a expliqués précédemment, d'ailleurs, pendant le live, que ce soit sa vie privée, que ce soit le positionnement, que ce soit l'utilisation, le fait qu'il n'y ait pas de neuf. Le fait tout simplement aussi qu'il n'ait pas les mêmes repères que quand il était à l'Inter et à Dortmund au niveau des profils des joueurs qui jouent autour de lui, ça c'est un ensemble de choses. Après, si tu le vends, le problème c'est que c'est un marché qui est fermé. La plupart des gros clubs, c'est des postes, les latéraux, ils sont déjà sécurisés. Ils n'auront pas de problème à ce poste. Les seuls clubs qui pourraient éventuellement avoir un besoin à ce poste et qui font partie du top, c'est le Barça qui pourrait éventuellement avoir un intérêt pour un joueur qui a le profil d'Hakimi ou le Real Madrid. Le problème c'est que si tu le vends, je pense que ce sera plus le Real Madrid qui mettra la caillasse parce qu'eux, ils ont les moyens. Et en plus, c'est un joueur qui est formé au club à Madrid. Donc, ça le permettait de faire d'une pierre deux coups. Seulement, si tu vends Hakimi, quels sont les joueurs sur le marché disponibles à son poste qui vont t'apporter plus et tu es sûr qu'ils vont venir au PSG? Vas-y, Zed, tu as l'air d'avoir une piste.
Ben, tout simplement, la piste, elle s'appelle Campos. On ne l'a pas recruté pour ça. Maintenant que tu as un Mukiele qui a une garantie au poste, mais Mukiele n'est pas la garantie. Non, mais entendez-moi, Mukiele n'est pas la garantie pour aller en Ligue des Champions, etc. Mais par contre, si en Ligue des Champions, ton titulaire se blesse au poste, Mukiele t'a amené suffisamment de garanties pour te dire, on va pouvoir y aller avec lui. Donc, si tu as ce mec-là, tu n'as pas un campus qui est censé te trouver un mec qui... Alors, il n'est pas complètement débutant, il a fait une ou deux saisons en pro, il a amené deux, trois trucs. Mais ce mec-là, on peut compter sur lui, il a la mentalité qu'il faut pour, etc. Il devrait... Voilà, la solution, elle devrait s'appeler Campos. Le problème, c'est est-ce que Campos est une solution?
Campos, je pense qu'il a 50 autres postes prioritaires avant celui-là.
Ça dépend. Si tu vends Hakimi, tu as une rentrée d'argent pour assurer ce poste-là. Donc, c'est pas incompatible. Moi, je suis pas forcément pour la vente d'Hakimi. Mais je suis juste en train de dire que c'est pas quelque chose d'impossible. Mais après, est-ce que Campos va pouvoir le faire? Parce que est-ce que Campos est au niveau de ce qu'on attend de Campos? Ça, c'est un débat aussi.
Alors, j'entends l'argument. Et d'un côté, tu as raison. Campos a été recruté pour ce genre de choses, pour repérer des joueurs, notamment des potentiels. Par contre, il y a une réalité de terrain aussi. Il y a un moment, il y a des postes qui sont compliqués à combler. C'est un débat qu'on avait hier, d'ailleurs, qu'on a parlé des liés droits. Un moment, excuse-moi, mais que ce soit ailier droit, défenseur droit, si on vend Hakimi, va trouver un latéral du niveau d'Hakimi ou qui s'en approche et qui va venir au PSG. Bonne chance pour le récupérer. Bonne chance. Et Mukiele, bien sûr, Mukiele a des réelles capacités. Mukiele est d'ailleurs un défenseur que j'aime bien parce qu'il assure notamment le côté défensif. C'est un mec qui défend bien, c'est un mec qui se bat, c'est un mec qui a faim. Par contre, il est limité techniquement ballon au pied. Il est moins bon ballon au pied qu'Hakimi et ça, c'est encore une fois une réalité. On n'a pas de neuf parce que ça changera, ça sera le même problème pour Mukiele et Hakimi. On n'a pas de neuf de toute manière pour réceptionner des centres si tu veux tenter pour les faire. Par contre, tu pars avec Mukiele numéro 1 et Pembele numéro 2, c'est quand même très risqué.
C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Je perds le nom du central de Porto sur lequel on était, ou de le central Ignacio.
Gonçalo Ignacio, c'est un axe gauche.
Voilà. Oui. Ce que je veux dire, c'est ce genre de profil. C'est la capacité à trouver ce genre de profil. Okay. Et c'est là où tu peux attendre un Campos. Alors après, tu me dis qu'ils n'existent pas, et peut-être, j'ai pas forcément.
Moi, il y a qu'un nom qui me vient en tête au niveau de jeune pépite en termes de latéral droit, mais le mec n'a pas le niveau pour être titulaire. C'est Gonçalo Esteves du Sporting qui est prêté, mais il n'a pas le niveau pour être titulaire chez nous. Et nous, on a déjà un jeune à potentiel vu qu'on a Mukiele, et on a aussi Pembele.
Ce sera jamais le niveau. Enfin, c'est pas méchant que de le dire. Je pense pas qu'il aura un jour le niveau du PSG.
Je dis pas que c'est Hakimi, mais par contre, quantitativement, on a déjà deux joueurs. Donc, si tu en ramènes un, il faut que tu ramènes vraiment un très, très bon joueur, pas un jeune avec du potentiel, parce que tu en as déjà deux à ce poste.
T'as le petit lion là.
Non, bah Longoustou a déjà signé.
Non, celui qui joue à sa place, qui vient de Le Havre là, Koumbédi, il est bon.
Pour moi, Moukele n'est pas un jeune avec du potentiel. Moukele va sans doute progresser un petit peu, mais Moukele ne sera jamais un titulaire établi à ce poste avec une renommée mondiale. Pembele, pour moi, il n'aura jamais le niveau vraiment du Paris Saint-Germain. Et par contre, j'aurai aucun problème pour quelqu'un qui peut avoir le niveau du Paris Saint-Germain, qui a juste cette dernière étape à franchir. Avec un Moukele en backup. Moi, j'aurais aucun problème pour ça. Mais encore une fois, si on revient au départ, pour moi, Hakimi, c'est vrai, c'est tu te compliques la vie, autant garder Hakimi et puis
voilà. Alors, j'ai vu une piste dans le chat et je vais devoir y répondre. On m'a parlé de Simakan dans le chat. J'aime Simakan, ça tombe bien. Tu vois, je regarde Leipzig, donc si tu veux, on peut parler de Mohamed Simakan. En fait, on a Moukele. Donc, tu vas prendre Simakan qui est le même profil. Tu vas avoir Simakan et Moukele au même poste. Alors, défensivement, tu seras calé, tu auras zéro problème. Et en plus, tu auras la polyvalence parce que les deux peuvent jouer axe droit. Donc, au moins, tu es tranquille.
Faut prendre Kaloulou en triplette.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Autant prendre Kaloulou en plus, comme ça, vraiment, t'as Kaloulou, Simakan, Moukele. Alors, ok, t'es bon pour la défense, t'es bon défensivement. Par contre, t'auras un manque offensif que Hakimi a. Alors,
Cancelo.
Ah, une excellente question, en effet. Alors, Cancelo, si tu veux, actuellement, il est au Bayern. Seulement, il est prêté au Bayern. Est-ce qu'il sera conservé par le Bayern? C'est pas sûr. Parce que bah, lui, c'est un portugais. C'est compliqué quand tu es portugais d'être à Munich. C'est... Voilà. Après, en termes de football, c'est sûr qu'il peut s'épanouir à Munich aussi. Après, est-ce que Cancelo serait intéressé par une arrivée au PSG? En sachant son agent, en sachant que Campos a de très bonnes relations avec son agent, en sachant que le PSG a un peu une image de Portugal-Saint-Germain avec l'arrivée de Campos et la... les discussions autour de la rumeur de Mourinho, ça pourrait être une rumeur crédible, ça pourrait être même un très très bon joueur. Est-ce que ça se ferait? Ben, j'ai l'impression que si tu le fais, peut-être, alors peut-être que cette... je n'avais pas pensé à cette possibilité, d'un coup, tu vois, tu me la mets à l'œil, peut-être qu'il est possible de tenter un échange Hakimi-Cancelo avec Manchester City. Peut-être. En revanche, ça me semble compliqué. Tu veux t'exprimer dessus, Z?
Non, je regardais juste, j'ai la caméra qui est à l'envers et ça me perturbe depuis tout à l'heure, c'est tout.
Quand tu connais le jeu des latéraux de Guardiola, notamment ce recentrage à Kimi, c'est pas vraiment fait pour ça.
Non, alors déjà, la question, c'est est-ce que Guardiola va jouer encore avec des latéraux l'an prochain ou est-ce qu'il va maintenir son 3-2-4-1 aussi, tu vois?
Ça, c'est encore autre chose. Ben, pour le moment, ça se passe plutôt bien, City cette année. Mais, Cancelo, oui, en plus, il peut jouer à gauche. On sait que Bernat n'a plus son niveau d'antan depuis ses multiples blessures. Mais Cancelo a eu des problèmes. Le problème, c'est ses problèmes relationnels. Il en a eu à Valence, il en a eu à la Juve, il en a eu avec Guardiola cette année, il en a eu en sélection et il en a eu à Munich avec Nagelsmann aussi.
Mais c'est justement, ça commence bien. Il arriverait à Nasser avec la 36-15 hotline Nasser et ça passerait.
Et j'allais dire aussi en plus Cancelo, il s'est aussi pris à... je sais pas s'il s'est pris la tête avec Tourelle, mais il n'est pas d'autant plus titulaire sous Tourelle.
Ah, il joue à la place de Davis à gauche quand même, hein.
Alors non, il a joué aujourd'hui à la place de Davis à gauche. Basto, tu vas pas me la faire. Non, ça ne marche pas. Mais est-ce que, alors oui, parmi les autres sujets du chat, il y avait aussi Vitinha. Vitinha qui ce soir, la question que je pose, Vitinha a-t-il réalisé sa meilleure performance au maillot parisien ce soir? Je vais commencer par Julien parce que ça, pareil, ça fait un petit moment qu'il n'a pas parlé. Pour pas...
J'ai plus en tête, mais je sais qu'en fin août, début septembre, il avait fait aussi des très bons matchs avec le Paris Saint-Germain. Et même à l'époque, on commençait à se dire, putain, il a peut-être un potentiel remplaçant successeur de Marco Verratti. Et c'est rassurant d'avoir un deuxième joueur qui peut avoir ce volume de jeu. Voilà, il avait vraiment quelque chose de très intéressant. Puis après, il a complètement plongé. Blessure, Coupe du Monde, enfin tout ça, quoi, le rituel habituel. Et c'est vrai que là, il a été intéressant. Après, je sais pas comment on peut l'expliquer. Il y a eu des prises d'initiative. Il a joué simple. Je sais pas si c'était son meilleur match, mais en tout cas, oui, face à un adversaire en tout cas de valeur. Parce que Lens, c'est pas non plus. Moi, je pensais sincèrement que le milieu de terrain allait se faire complètement dévorer.
Compare au match aller, ouais.
Voilà, et en fait, là, il a répondu présent, et voilà, il est impliqué sur deux buts, sa frappe est belle, même si bon, Samba, il est un petit peu bizarre, mais quand même, voilà, la frappe, faut la tenter, il la tente. Non, il fait un match, ouais, il fait un bon match, après, je sais pas si on peut parler de match référence, en fait, il lui manque un peu de la continuité, tu vois, faudrait qu'il en refasse encore un ou deux derrière pour se dire que ça y est, il s'est remis un peu dans le sens de la marche, quoi.
Un match
Bien
entier.
sûr, après, chaque joueur a besoin d'un temps d'adaptation. Si tu me dis que Vitinha, il a besoin d'un temps d'adaptation et qu'il
Ah oui,
fait
il est
une
jeune.
deuxième saison, et qu'il fait une deuxième
Mais il
saison comme
faut.
Upamecano au Bayern ou comme Grealish à
Non, mais bien
City,
sûr. Non, mais
je suis
je pense
d'accord.
qu'on
Hein.
ce qu'on oublie avec lui, c'est que ça reste un très jeune joueur, qu'il a eu une expérience à l'étranger à Wolverhampton qui s'est pas très très bien passé.
Et pourtant, Wolverhampton, c'est vraiment le club portugais par
Ouais,
référence. Hein.
mais c'est la première ligue, c'est un autre rythme. Quand tu arrives du championnat portugais, que tu déboules en première ligue, et voilà, alors t'en as pour qui ça se passe très bien. Bon, lui, ça s'est pas super bien passé. Puis là, avec le PSG, je pense qu'aussi, il a besoin de trouver le bon rythme, sa place, la densité physique aussi est plus importante. Bref, voilà, il faut digérer, quoi. Faut digérer. Donc, je pense que le meilleur est à venir avec lui, mais il faut être patient. Faut être patient, il a coûté cher, il est encore en phase d'adaptation et il faut accepter qu'il y ait du déchet et des ratés, quoi.
Bien entendu. Bah, je vais laisser Z s'exprimer.
Ouais, bah, pour moi, tu as tout dit au début, c'est un joueur qui est arrivé et on s'est dit, mais ah, enfin, on était tous orphelins de Thiago Motta. Et depuis de nombreuses années, hein, on va pas citer les Krikoviak, Stambouli, etc., etc. Mais le départ de Thiago Motta, quand tu es supporter parisien, c'est quelque chose qui t'a coûté cher. Et on se retrouve en début d'année et on se dit, ah, mais putain, ça y est, on a peut-être trouvé le mec qui nous manquait au milieu.
Tu te rappelles les tweets Verratigna en début de saison là?
Ouais, mais il s'est retrouvé, je pense, d'emblée avec une pression de psychopathe, parce qu'il y a cette attente qui devait être l'attente, parce que sinon, en tant que supporter, il faut imaginer ce qu'elle était dans le club, au niveau de la pression, des messages qu'il recevait, oui, il faut un bon milieu, etc. Il s'est retrouvé à gérer une attente de psychopathe, et n'importe qui, enfin, il aurait fallu avoir des épaules très très solides, et après, si t'expliques effectivement le prêt qui est parti en sucette à Wolverhampton, puis finalement il revient au pays, et là tout à coup ça devient un des meilleurs milieux d'Europe, ou élu comme un potentiel monstrueux par rapport à la saison qu'il fait, et il débarque à Paris, et là tout à coup c'est la pièce manquante d'un grand club, ou en tout cas un club qui se veut grand, et qui lui fait défaut depuis 10 ans. Les épaules pour tenir ça et pouvoir l'encaisser sans aucun souci, elles auraient dû être vraiment, vraiment très larges et je serais le dernier à lui jeter la pierre pour ça. Et après, ben voilà, je vois des commentaires, et notamment le commentaire de Vincent, qui pour lui manque quelque chose. Moi, c'est un joueur dans lequel j'ai envie de croire. Il y a aussi
De
la
l'expérience.
jeunesse du joueur, la responsabilité que tu as quand tu es au milieu. Alors oui, tu as des Kylian Mbappé qui explosent à 17 ans, etc. Mais c'est des phénomènes. Pareil, on a Nuno Mendes qui explose complètement à 19 ans, qui déçoit jamais. Mais ce sont des phénomènes. Il y a d'autres joueurs qui prennent un peu plus de temps pour maturer. Faut lui laisser travailler, prendre un petit peu en volume, prendre en confiance psychologiquement, prendre en volume physiquement. Et je pense que c'est un joueur qui a le football, qui a la vision. Il a quelques défauts. Il fait son taux de passe vers l'avant est sans doute beaucoup trop faible pour son rôle. Qu'il en ait un petit peu de latéral, un peu en retrait, des dédoublements, etc. Très bien, mais le taux doit être amélioré. C'est un joueur qui a un sens du but, qui a un sens de la frappe, qui a un sens de la passe décisive. Je pense que c'est un joueur qui est très intéressant et c'est un bon pari sur l'avenir. Et pour réagir au message qu'Efren mille fois, déjà, c'est des joueurs qui n'ont rien à voir. Rien à voir l'un et l'autre. T'en as un, pas un box-to-box, mais c'est un percuteur. Vitinha, c'est plutôt un artiste. Enfin, comment dire, c'est pas un artiste, c'est pas Javier Pastore, mais c'est quelqu'un qui organise le jeu. C'est pas quelqu'un qui va, par sa percussion et par son physique, amener une différence dans l'espace. Donc, c'est deux joueurs qui sont absolument pas comparables. Et je pense que le Vitinha, en termes de potentiel, à titre personnel, est bien plus haut que celui de Khéphren Thuram.
Je vais laisser Baston maintenant s'exprimer sur Vitinha. Est-ce que pour toi, on est sur le meilleur match de Vitinha cette saison?
Meilleur match, non, il y a eu tout ce mois d'août, mais globalement, je pense que Vitinha, au-delà de la pression qu'il a, Vitinha, c'est un joueur qui a besoin d'avoir des responsabilités. On l'a vu à Porto quand il commençait à être remplaçant, il a été prêté, etc. Puis finalement, on lui a redonné les pouvoirs l'année dernière et il s'est tout de suite imposé. Là, il arrive, il est entouré de Verratti et Neymar. Et mine de rien, c'est un joueur qui n'a pas cette mentalité pour s'imposer face à ces joueurs-là. On a besoin de lui donner les responsabilités du jeu directement. Donc là, il est un peu rentré dans le mode caméléon, tu vois. Il a un peu copié Verratti, à faire un peu le tourniquet, à jouer latéralement, à dédoubler que sur Neymar, à arrêter de trouver d'autres solutions. En début de saison, on voyait beaucoup notamment prendre l'espace sans ballon, puis s'est arrêté, comme le fait Marco, qui ne prend jamais l'espace sans ballon. Vitinha a un peu copié. Quand il faisait pas la passe à Neymar, on a vu à Monaco, Neymar l'engueulait, tu m'as pas fait la passe, etc., etc. Donc je pense que Vitinha n'a pas cette personnalité pour passer devant ces joueurs-là, évidemment mentalement, pour pouvoir dire et moi aussi j'ai ma place. Et pour moi, il est un peu dans essayer de trouver sa place là-dedans, et il est un peu dans le mimétisme de ce qui peut se faire. Donc voilà, c'est pour ça que dans le dernier live, je disais si on devait garder trois joueurs à Paris, j'avais cité Mbappé, Nuno, j'avais cité Vitinha, si on construit autour de lui au milieu. Alors c'est un pari risqué parce que pour moi, il n'a pas assez
pour que tu construises. Mais, c'est beaucoup trop tôt. Mais c'est potentiel, c'est-à-dire que tout à coup, tu pourrais te dire, tiens, je construis cette équipe à partir de ça, je construis avec cette mentalité-là, mais c'est beaucoup trop tôt, tu te plantes, tu te relèves pas, en fait. Alors, beaucoup trop tôt, il a besoin au moins d'une année de plus où il a confirmé, parce qu'il y a un défaut qui a été nommé, c'est la constance que Julien nommait justement, et j'ai envie de dire, mais même la constance sur un match, par exemple, ce soir, est-ce qu'il fait 90 minutes de haut niveau? Pas encore. Alors après, il faut être accompagné. Tu peux pas faire 90 minutes de haut niveau quand tu as ton équipe qui plonge comme ça en deuxième mi-temps. Mais on ne l'a jamais vu être 90 minutes. Et pareil, tel que tu le disais, ce n'est pas forcément le patron. C'est-à-dire que ce n'est pas lui, si les autres plongent physiquement ou en font un peu moins, qui tout à coup va impulser ça. Il lui manque vraiment quelque chose pour que tu construises une logique de jeu autour de lui. Il lui manque au moins une année où il va confirmer certaines choses.
Alors, ce serait trop tôt. Pour clore le sujet Vitinha, en ce qui me concerne, je tiens à rappeler que quand on recrute Vitinha, Campos se présente comme un jeune milieu avec du potentiel qui est censé être remplaçant et qui, à terme, va s'imposer comme titulaire au PSG. La réalité des faits étant qu'on n'a pas vendu les joueurs qu'on aurait aimé vendre sur le mercato, nous ne dégageons pas assez d'argent sur le mercato pour acheter des milieux de haut niveau. Donc on se retrouve avec Ruiz et Soler recrutés le dernier jour parce qu'eux acceptent d'être remplaçants à petit salaire. Donc, comme tu n'as pas recruté de milieu de haut niveau, un mec comme Vitinha, qui est censé être remplaçant, se retrouve titulaire. Il se retrouve que son profil est plus proche de Verratti que celui d'un Bernardo. Donc, forcément, quand tu appliques des profils qui ne sont pas offensifs, ben c'est compliqué. Et moi, ce que j'en pense concernant Vitinha, c'est qu'à un moment, quand je vois dans le chat les propositions de l'associé à Kefren Turab et à Fofana, je me demande lequel des trois sera 6, et j'en rigole un peu sincèrement dans mon coin. Blague à part, je pense que Vitinha, ce n'est pas un joueur qui va être titulaire forcément dans un grand club si tu le mets en concurrence. Par contre, je pense que c'est un joueur que si tu lui laisses le temps de se développer, bah, si tu suis une carrière linéaire, c'est-à-dire bah, quand tu es jeune, tu es remplaçant, tu te bats pour avoir ta place et tu deviens à 26-27 ans un joueur accompli et au top de ton potentiel, je pense que quand tu atteindras cette tranche d'âge pour Vitinha, tu auras un joueur qui sera intéressant. Par contre, ce n'est pas un joueur qui, à 18 ans, 21 ans, est capable de jouer titulaire dans un top club de Ligue des Champions, comme le PSG aspire à l'être. Donc, pour conclure sur Vitinha, je dirais que je lui laisse une deuxième chance. Mais par contre, l'an prochain, j'achète des milieux de terrain de haut niveau pour que Vitinha soit dans la rotation et pas un titulaire sur lequel on attend qu'il soit,
ce qu'il faut aussi dire, c'est que je pense que le plan de base... il est un peu tombé à l'eau parce que tu as par exemple un Danilo aurait dû jouer plus dans l'entrejeu qu'en défense centrale, qu'un Renato Sanchez en théorie aurait pu jouer plus de 10 matchs sans être blessé. Et à ce compte-là, peut-être que Vitinha en effet n'aurait pas été autant sur le terrain, parce que je pense qu'un Renato Sanchez aurait eu plus de temps de jeu qu'un Danilo aussi. Ils ont des profils différents, mais ça aurait permis aussi d'avoir plus de variété au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, et peut-être que tu as Vitinha, on lui aurait laissé un peu plus le temps, on lui a donné beaucoup de responsabilités trop tôt, et ben voilà, il a montré pour le moment ses limites, et ce qui est tout à fait normal, mais je pense qu'il a pâti de ça, quoi. Il a pâti du fait que bah, avec les blessures des uns et des autres, les indisponibilités, le staff a dû faire reculer Danilo, a pas pu se servir de Renato Sanchez, et par effet domino, c'est Vitinha qui a eu trop de temps de jeu depuis son arrivée, quoi.
Il y a la proposition, en effet. Enfin, moi, je suis pas forcément fan de ce retour, mais il fait sens. C'est en effet, parce que l'avantage, c'est que tu apporterais à côté de Vitinha quelqu'un de qui aurait plus d'expérience que lui, qui aurait des responsabilités différentes sur le terrain que lui. Là où avec Marco Verratti, comme Basto le disait, ils vont se retrouver avec trop de Moi, j'ai pas envie de partir sur la séquence. On s'est retrouvé avec trop de mimétisme en fait de Vitinha, mais avec Rabiot, il pourrait pas faire du Rabiot, donc il ferait du Vitinha. Ça pourrait faire sens, ça pourrait être une idée. En effet, l'accompagner. Et là, on serait dans la direction de ce que propose Baston. Mais j'ai juste l'impression que c'est un peu trop tôt personnellement.
Le problème, c'est surtout que c'est un trio Verratti, Vitinha, Rabiot là.
D'accord. Non, mais Verratti pour moi, il est. Enfin, c'est un moment où il faut.
Oui, mais on sait très bien qu'il sera titulaire Verratti, donc.
Oui, mais si tu veux, quand t'es en train de rêver et que tu te dis, il y a un moment où il faut savoir passer à autre chose, en fait. C'est ouais, t'as pris du plaisir dans le passé, mais maintenant, c'est aujourd'hui, quoi. Tu vois, le monde change.
Alors, est-ce qu'il y a un autre sujet que vous vouliez aborder pendant ce live tant qu'on...
Va.
Tu sais quoi, Basso, j'avais complètement oublié. Tu sais quoi, on est bientôt à 1 heure de live. Je vois qu'on est 220 et on a obtenu que 70 pouces. C'est pas super sympa, les gars. Je vous propose qu'on en ait un peu plus si vous ne voulez pas voir Galtier prolonger de 5 ans dans ce club merveilleux et si vous ne voulez pas non plus voir des prolongations de Soler
et Fabien. Et indépendamment de ça, ça vous prend 2 secondes en vrai, les gens. C'est juste vous êtes là avec nous, blabla, etc. Bah, vous prenez 2 secondes, vous faites chac et puis ça y est, c'est plié. Et puis comme ça, on n'a même pas besoin de vous lire. C'est cool.
Alors, justement. Basto, c'est ta minute aigrie, lâche-toi.
C'est pas de l'aigreur. Au début, je pensais que le règlement était, puisqu'il change chaque 6 mois, le règlement était que quand le ballon touche une autre partie du corps avant la main, il n'y a pas pénalty, sauf que ça a été changé a priori. Maintenant, c'est quand la main est à hauteur, et peu importe qu'elle soit volontaire ou involontaire, peu importe qu'elle ait touché le corps ou pas, si elle est décollée, si il se met en position, si le joueur se met en position de faire une erreur, si la main est à hauteur, etc., c'est très compliqué. Il y a pénalty, donc l'arbitre ne fait pas d'erreur. Maintenant, je l'avais déploré quand le VAR a été mis en place. On sait très bien que je ne suis pas pour le VAR, Dreyas qui est là non plus. On a un peu le même avis là-dessus. Et j'avais dit qu'avec le VAR, toutes les mains seraient sifflées. Autant uniformiser ça, soit on siffle toutes les mains. Parce qu'en plus, elles sont toutes vérifiées par le VAR, ce qui ne sert à rien, ce qui rajoute du temps. Là, on a encore vérifié. Ça rajoute une incompréhension. Je discutais avec quelqu'un sur Twitter qui est supporter de Paris et de Lens, Seb Valrus, que tu connais, Dreyas, qui, lui, n'aurait même pas sifflé les mains, la main à Paris-Lyon, la main sur le centre de Nuno. Pour lui, il n'y a pas pénalty non plus, parce que pour lui, il faut qu'il n'y ait que volontaire, pas volontaire. D'autres disent que oui, d'autres disent que non. Enfin, c'est des débats qui sont sans fin. À chaque main, on a 50% qui disent oui, il y avait pénalty. D'autres non, et même les arbitres ne sont pas uniformes puisque chaque journée, ils ne savent plus quelle règle a été réinventée. C'est même pas les mêmes pour l'UEFA, c'est pas les mêmes pour la FIFA, c'est pas les mêmes pour la Ligue 1. On s'en sort plus.
C'est ça qui est fou, c'est qu'on pensait que la VAR allait créer des débats sur les plateaux de télé, mais la VAR n'arrête pas de créer des débats même dans les instances, et les mecs n'arrivent pas à se mettre d'accord les uns avec les autres sur comment, parce que là, tu vois, ce que tu es en train de suggérer, ce serait ridicule. Alors... C'est genre, attention, ça a touché le petit doigt.
Alors, c'est
le
mec, il
est en train de tomber. Moi, je suis juste prendre la logique à un moment quand tu vois l'action. Moi, je veux bien qu'on en... Tu sais, le fameux « le ballon touche une autre partie du corps avant de toucher la main, donc forcément, il n'y a pas la maîtrise. » Je veux bien, mais à un moment, la position de la main de Ruiz, je l'ai tweeté, hein, j'ai demandé, il faut qu'on me fasse un logo là. Tu te rappelles le logo Nike Air Jordan où il a la main comme ça? Je veux le même avec Fabien Ruiz comme ça là. Il faut que quelqu'un me fasse le montage. Non, mais la main n'est pas naturelle. Je veux bien que tu me dises que le ballon
juste touche une règle uniforme.
Voilà, mais je pense qu'à un moment, sinon, il y a ce truc. Il y a
une logique. Tout, sinon, mais...
sinon moi, ce que je propose un truc qui est pas mal. En fait, c'est qu'on retourne dans un système où on accepte la part d'erreur humaine et on fait confiance à la compétence d'une personne pour juger les situations et les apprécier en temps réel. Et qu'un arbitre soit juge, ce qu'il est sur un terrain. Et qu'on arrête avec ces débats qui n'en finissent pas, qui créent des trucs, qui créent des polémiques. Depuis, et Basto a raison. Alors, déjà, la règle de la main, c'est quelque chose qui changeait. Relativement souvent, le foot a toujours eu un mal de chien à établir une règle pour la main, mais depuis que c'est la VAR, c'est tous les 6 mois. Fait, qui aujourd'hui, quand il voit un match de foot, est capable de comprendre, ça devient plus compliqué que des règles du rugby, quoi, la main dans le football. Et depuis la VAR, ça n'a fait que s'aggraver. Ce truc-là, ça crée des problèmes non-stop. Il y a un jour, il faudrait peut-être... Mais bon,
au contraire, on demande à un arbitre d'être arbitre, pas juge. Je te dis, c'est un juge. Non, arbitre, c'est du mot arbitraire. Juge, c'est juger. Tac, tac, loi.
Ah.
Arbitraire, c'est la
ligne. Oui, peut-être, monsieur. Je me suis emballé sur la sémantique. Oui, tu as raison. Mais bon, t'as compris l'idée.
Oui, bah, de toute façon, on a le même.
Alors, Amitou, j'ai même envie de te faire plaisir. On va pas l'appeler Fabienne Chris. J'ai envie d'être un peu plus fin que ça. J'ai envie de l'appeler Monsieur Chocolat, si tu connais un peu la chanson française.
Ah, Olivier Ruiz.
Bien joué, Basto. C'est le point culture de la soirée. Blague à part, je vous laisse, si vous vouliez rajouter quelque chose avant de conclure ce live.
Non, c'est cool. Si ce n'est que cette équipe de Paris Saint-Germain continue d'être décevante, continue d'être agaçante. Et, Et quand elle nous balance 10 minutes qui sont un petit peu intéressantes, elle les balance dans la boue derrière pour nous rendre une deuxième mi-temps qui est insipide. Et ce club est vraiment fatigant. On a eu une saison qui frise le pathétique, où on frise le ridicule, et c'est problématique. Hein. On est champion en étant aussi ridicule que ça. Je pense que c'est un des champions les plus laids de l'histoire récente de la Ligue 1. Je ne peux pas juger l'histoire plus ancienne, je ne la connais pas. Mais ce pari-là ne fait pas rêver, ce pari-là n'entraîne pas les cœurs, et ce pari-là est nul.
C'est terrible, l'histoire de victoire 3-1 contre Lens.
Oui, mais c'est fou. Oui,
d'en venir à ça, quoi. C'est mais t'as raison. T'as raison.
Ouais, vas-y, Julien, excuse-moi.
Non, mais... C'est ça qui est assez désarmant, c'est de se dire que quand même tu as gagné 3-1 face au deuxième de Ligue 1 et que tu t'ouvres la voie royale pour être champion, mais que ce que tu retiens au final, c'est pas les trois buts qui sont très beaux, c'est la prestation d'ensemble qui te fait dire que bah, c'est de la bouillie de football et qu'avec ce que tu as comme matériel, tu dois faire mieux, beaucoup mieux, et tu proposes ça, quoi. Sincèrement, cette saison, il y a au moins 6 équipes minimum qui joue bien, voire même mieux que le Paris Saint-Germain. Paris a eu la bonne idée d'engranger énormément de points en début de saison.
Oui.
Parce que là, tu te dis, bon, tu reprends 9 points d'avance sur Lens, mais bon, ça ne reflète pas du tout l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Enfin, je veux dire, Paris, cette année, s'est fait tordre par Rennes 2 fois, s'est fait tordre par Monaco, a perdu contre l'un des Lyons les plus mauvais de ces 20 dernières années. Marseille, tu gagnes tes 2 matchs, mais t'as pas comme une impression extraordinaire face à eux. T'as Lille, pareil, où tu gagnes de manière miraculeuse au Parc des Princes. Enfin, voilà, il y a tout plein de matchs face au top 6 de Ligue 1, bah, le PSG n'a pas vraiment existé.
Et puis tu peux même parler de clubs comme Lorient, tu peux parler
Angers, la victoire contre Angers, Strasbourg au Parc des Princes.
Oui, non, mais indépendamment
de plein.
Paris, tu as des clubs en Ligue 1 qui cette année ont envoyé du jeu, quoi.
Ah oui, bien sûr.
Et Paris, qui est l'équipe qui a le plus de moyens, qui se donne le plus de moyens, et une équipe extrêmement décevante, extrêmement pauvre dans le jeu, en termes que ce soit en animation offensive ou en animation défensive. On est passé de coach qui avait des défauts, qui avait des limites, qui avait à un coach où la question qui apparaît, mais c'est une question qui est un peu dure, parce que moi je suis un aficionado, quoi. Je suis pas professionnel ni rien, mais où la question qui apparaît, c'est la compétence. On n'a jamais vu cette saison une animation avec ballon qui faisait sens, qui était cohérente, et une animation sans ballon qui faisait sens, qui était cohérente. Mmh. Et cette saison a été terrible.
Après, c'est je pense qu'on va pas faire ça, je vais pas monopoliser la parole, mais je pense que Galtier est pas le seul fautif. Enfin, je pense le problème est plus global, tu vois. Je pense qu'il y a, le vrai problème, c'est que c'est l'équipe qui a été bâtie, c'est une équipe qui est pas fonctionnelle, et qu'à partir du moment où tu peux reposer obligatoirement sur les 3 devant, tu fais un choix, mais il faut l'assumer. Et le résultat de ça, c'est que ton équipe est pas du tout fonctionnelle et que tu as des joueurs qui sont mis à des postes qui sont pas les leurs. Et en plus de ça, tu rajoutes aussi Galtier qui a sa part de responsabilité, parce que c'est lui qui doit être l'homme orchestre de tout ça. Et on a l'impression que il orchestre rien du tout, quoi.
Et puis les prédécesseurs, avec les mêmes, le même matériel et les mêmes contraintes, ont dans l'ensemble fait tout de même un peu mieux.
Oui, bien sûr.
Je vais laisser un peu Bastos s'exprimer et lui laisser un petit mot de la fin, sinon ça va finir en passe-passe entre Julien et Zed à nous rappeler nos plus belles années hip-hop dans les années 90. Si tu veux ajouter quelque chose, Bastos.
Non, mais juste un petit mot. Il y en a certains qui nous disent des fois « Ah, c'est quand même un titre, c'est important, on va le fêter, etc. » Bon, on n'est pas encore champion officiellement, mais on l'est quasiment avec 9 ans.
Tu n'as pas ouvert ta crique encore, Bastos ?
Non, mais... Je me souviens juste, il y a une époque où pour une victoire en Coupe de la Ligue contre Lens avec un but de Mendy sur penalty à la 93e, on descendait dans la rue torse nu à fêter ça. Qui a envie d'aller fêter un titre de champion maintenant avec ce qu'on propose et avec tout le bordel? Je pense que personne, même ceux qui nous reprochent d'être aigris et de ne pas fêter le titre, je ne suis pas sûr qu'ils fassent plus que se servir un petit verre de champagne chez eux.
Hein. Mais pourquoi Bastos? Pourquoi en fait? Au-delà que le titre cette saison soit pas très beau, pourquoi en fait les supporters n'ont pas envie de descendre dans la rue?
Parce que pour moi, mais moi, ça fait plusieurs années, hein, ça fait déjà 5-6 ans.
Le foot a changé en global hein, aussi, hein, Basto.
Le foot a changé en global. Mais comme j'ai dit, ce PSG n'est le PSG que par le nom. Il n'y a plus d'attache. Si tu enlèves le parc, mais ça, c'est un autre débat, ce sera encore autre chose. Mais pour moi, ce PSG, c'est plus un sandwich du Qatar. Il n'y a plus vraiment. Pour moi, il y a eu des Pastore, des Botas. Maintenant, c'est Nuno. C'est des joueurs qui arrivent à nous attacher de temps en temps à quelque chose, mais on ne se reconnaît plus dans ce PSG. Enfin, moi globalement, je ne sais pas les autres. Oui. Mais...
Je pense qu'il y a aussi une erreur, le péché originel du Paris Saint-Germain QSI, c'est d'avoir mis tellement la Ligue des Champions sur un piédestal et d'avoir oublié de donner de l'importance aux titres nationaux. Non, mais
c'est plus un projet marketing qu'un projet foot si tu t'amuses à faire l'anachronisme de l'histoire. Enfin, l'anachronisme, d'ailleurs, je ne parle pas français, mais tu vois. En effet, tu sais, il y avait la Ligue des Champions et puis il y avait trouvé le nouveau Messi, mais ça, c'était les messages flashy pour, d'une certaine manière, lancer le projet marketing. Et on a.
Ouais, mais ça a imprégné la preuve. La preuve, personne maintenant, tu vois, gagner la Ligue 1, c'est comme si tu gagnais le trophée des champions. C'est normal, tu vois.
Si le PSG avait un projet où on perd en 8e, comme on le fait cette année, on gagne le titre, disons à l'arrache, mais on a un projet où on joue comme City, personne ne ferait la gueule.
Alors,
bien sûr, bien sûr.
Alors justement, il y a un commentaire qui est assez intéressant et qui résume un peu tout ça. Il y a Serge qui disait, alors je vais l'afficher justement, il va se reconnaître, pas en mode méchant. Il y a Serge qui nous dit justement, Serge qui aime bien tirer des coups de gueule, et il a le droit de tirer ses coups de gueule,
on donne la parole à tout le monde.
Non mais Serge nous dit, un titre se fait toujours, faut arrêter, c'est le Qatar qui te permet de voir Messi, Mbappé, Neymar, Ramos dans la même équipe, un peu de respect. Alors,
mais on n'a pas dit ça.
Non, mais attends, justement Julien, moi j'entends ce point de vue dans le sens où, quand tu fais des débriefs et que tu dis ce qui va pas, bah à un moment tu vas pointer les gens. Et à un moment, il faut pointer les gens qui sont responsables quand ils sont responsables. Tu vois, c'est ce que je revenais tout à l'heure, tu sais, quand on a parlé de Galtier par rapport à un joueur, bah, par rapport aux blessures de Sanchez, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Serge, tu vois. Je peux faire des reproches à Galtier. Par contre, je ne vais pas reprocher à Galtier que Sanchez se blesse. Tu vois, ça, c'est Sanchez, il se blessait déjà avant Galtier, tu vois. Par contre, oui, le Qatar a permis de faire un vrai step-up au PSG, surtout quand tu vois la période colonie capitale qu'il y a juste avant QSI, t'inquiète pas, on s'en rappelle. Par contre, c'est dommage de se dire, avec tant de moyens déployés et avec tant de possibilités de réussir, je pense que ça génère de la frustration. Tu vois, je veux dire, regarde Serge, quand tu cites les joueurs que tu as cités, Neymar, Messi, Ramos, c'est des joueurs que j'ai vus évoluer en Liga, au Barça et au Real Madrid, mais je me suis dit, mais bordel, je veux des joueurs comme ça au PSG. Mais quand ils sont chez nous, est-ce que c'est les mêmes mecs? Est-ce que c'est les mêmes joueurs? Non. Donc là, tu as une raison, tu vois, et tu as un truc pour aller. Et pour clôturer ce live, je vais répondre à une question qui a été posée 50 fois dans le live, parce que le pauvre, on ne lui a pas répondu. Mais on avait répondu dans un autre live à ta question. C'était celle sur Ekitike, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? J'en ai parlé dans un précédent live. Je crois peut-être que tu n'étais pas là, c'est pas grave. Donc je te fais le récap en 30 secondes. Je pense que Hugo Ekitike, c'est un jeune joueur. Et qu'au PSG, à part Nuno Mendes et Mbappé, depuis 2017, on ne fait progresser aucun jeune. Mais eux, c'est des joueurs générationnels. Ekitike, il a besoin de temps de jeu, il a besoin de confiance, il a besoin de prêts dans un club qui développe les jeunes. Au hasard, il y a Leipzig qui va perdre Nkunku, qui est un faux neuf. Ekitike, qui est un neuf, qui joue comme un profil de faux neuf, ben, il serait peut-être inspiré d'aller demander un prêt à Leipzig, qui joue la Ligue des Champions, joue la Bundesliga, qui fait progresser les jeunes et qui fait progresser les attaquants. Et là, tu vois, tu as toutes les conditions qui sont réunies pour que Ekitike puisse, pourquoi pas, se développer. Et à la fin du prêt de 1 an, voire même 2 ans, en fait, tu peux en tirer une conclusion et te dire, est-ce que Ekitike sera à niveau du PSG ou est-ce que tu profites du fait que ce soit un jeune joueur qui a progressé pour le revendre? Point. Voilà, et on ne parle plus d'Ekitike. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur Hugo? Non, mais j'espère que j'ai répondu à ta question sur Ekitike parce qu'au final, elle revient à chaque live et j'ai l'impression de me répéter à chaque live et je trouve ça un peu dommage.
Et ton temps, tu penses quoi d'Ekitike?
Alors très honnêtement, Hugo Ekitike, c'est un jeune joueur. J'adore le comité de répétition. Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis durant cette heure de live. Je vous invite à mettre un pouce sur le live, ça coûte 0 centime et ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à aller suivre Julien Froment sur Twitter si vous ne le connaissez pas. Il participe également sur France Info, cette fois je ne me suis pas trompé. Et vous pouvez également le retrouver sur Twitter si vous êtes connecté au réseau. N'hésitez pas à nous retrouver rapidement, on se retrouvera en live sur la chaîne Paris Central très prochainement. Et j'en profite pour vous faire une petite annonce, je viens d'ailleurs de créer une chaîne YouTube qui ne tardera pas à voir le jour et qui ne parlera pas que du PSG, et je vous tiendrai plus au courant dès qu'elle ouvrira. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, et n'oubliez pas, ici c'est Paris.
Ciao tout le monde, bonne soirée.
Merci, au revoir à tous.